C'est le moment Gestalt. Gestaltmoment. Gestaltmoment.
Bonsoir à tous. On est sur Radio Campus Paris pour une nouvelle heure de radio ensemble ce soir. Et comme vous le savez peut-être, Gestalt, c'est une émission dédiée au sujet de santé et de soins. Alors on souhaite discuter ensemble avec nos invités afin de réfléchir sur des sujets culturels, artistiques, sociétaux, et de les mettre en perspective au regard de l'être humain, de sa condition, mais aussi de sa santé physique et psychique. Alors comment certains bidouillent pour créer des nouvelles idées avec ce monde qui nous fait bien croire qu'on n'est pas grand-chose en ce moment? Comment on déplace la simple question du soin? Comment on la documente? Ou bien est-ce qu'on peut faire des ponts entre différents domaines? Ce soir, nous allons parler de la médiation animale. En tout cas, on verra si c'est vraiment de la médiation animale ou si c'est autre chose. On va parler plus particulièrement, en tout cas, de la place que tient le cheval dans l'accompagnement de personnes concernées par des troubles physiques et ou psychiques. Pour cela, je suis accompagnée de nos deux invités, Charlène Georges et Louis-Pierre Lacouture. Et je suis toujours bien accompagnée par Joseph Ascal à la réalisation. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Charlène Georges, tu es infirmière dans un hôpital de jour à Suresnes pour enfants concernés par des troubles autistiques. Et tu es aussi formée à l'ichéthérapie. L'hôpital de jour, il est rattaché au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson. Et donc, tu ne fais pas de séance d'équithérapie, mais actuellement, tu accompagnes les enfants de l'hôpital de jour à un atelier animé par une monitrice d'équitation. Et ce sera l'occasion d'échanger pendant cette heure ensemble sur ce qui s'y passe. Bonjour à toi.
Avec plaisir.
Louis-Pierre Lacouture, en tant qu'artiste pluridisciplinaire, ta pratique, elle passe principalement par la réalisation de films, mais aussi par la pratique radiophonique et le travail du son. Tu as plusieurs projets, tous très différents, mais tes projets qui se relient sont souvent liés à la musique aussi, à l'image, et qui portent aussi très souvent un regard sensible sur l'humain, mais pas que. Il arrive que les chevaux ne soient jamais bien loin de tes créations. Tu as travaillé sur un projet de film installation qui se nomme Moondog Equestria, qui implique des chevaux et des cavalières escaramuzas au Mexique.
C'est ça.
C'est l'occasion de travailler l'espagnol ce soir. Voilà, c'est autour du musicien Moondog qu'on apprécie beaucoup ici. Et c'est en cours de montage actuellement.
Exactement.
Tu es également l'auteur d'un film court qui se nomme Rien que le souffle du vent, qui a été diffusé, sorti, en tout cas travaillé en 2023, sur cette année-là, avec les comédiens porteurs d'un handicap mental de l'atelier Catalyse à Morlaix.
C'est ça. On a tourné entre 2021 et 2022 et voilà, ça s'est achevé, c'est sorti en 2023.
D'accord. Et si tu es avec nous ce soir, c'est aussi surtout pour témoigner de ta rencontre avec le monde de la Escaramuza Chara. C'est un monde que tu as voulu documenter de manière radiophonique notamment. Et ce sera l'occasion de parler ensemble de ces cavalières du Mexique qui, pour certaines, travaillent le soin par l'équithérapie.
Voilà.
Merci d'être là. Charlène et Louis, j'ai une première question pour échanger ensemble sur le lien entre soins, cheval et médiation. Moi, ma première question tout d'abord, qui n'a pas trop de rapport, mais quand même, quel est votre dernier souvenir qui vous vient en tête, là, maintenant, si je vous demande votre dernier moment passé avec un cheval ou en lien avec un cheval?
Eh ben moi, mon dernier souvenir, il n'est pas très loin. C'était lundi. J'ai monté à cheval, je sautais, enfin j'ai repris le saut, donc c'était une remise en confiance pour moi. Donc voilà, c'était un très bon souvenir, j'ai pu apprécier de sauter, de reprendre ces sensations-là qui sont très particulières.
Et tu es cavalière aussi.
Oui.
Et toi Louis?
Moi je peux te raconter une anecdote plutôt de preneur de son, où donc pendant les repérages de ce projet Moondog Equestria et qui ont été l'occasion d'enregistrer et voilà, beaucoup de faire de prise de son de terrain, j'avais laissé un micro dans une écurie au bord d'une stabulation quoi, et pour avoir le son du cheval, enfin des chevaux dans la nuit. Et il s'est trouvé que le cheval, après que je sois parti, a essayé de manger en fait la ricotte quoi, tu vois, la protection du micro. Donc après, en réécoutant l'enregistrement, on avait du comme ça, voilà, ça le genre de déconvenu quand on se met pas assez à la place à la place du cheval et de ce qu'il voit quand toi tu crois voir un micro et sa protection.
Et qui lui croit peut-être voir une carotte et qu'il est bien déçu, on se met pas à sa place.
C'était plus comme une grosse pomme, je pense.
En tout cas, tous les deux, vous avez un lien commun ensemble ce soir, c'est le cheval, mais pas que. Vous vous intéressez de manière très sensible à ce que le cheval peut nous transmettre, et aussi dans la rencontre, dans le lien. Charlène, Louis, voilà. Aujourd'hui, on va parler principalement de ce que ça peut avoir comme particularité clinique. Charlène, toi, tu travailles en tant qu'infirmière à l'hôpital de jour de Suresnes, comme on le disait, et comme tu travailles avec des enfants autistes et que tu les accompagnes, je voulais savoir d'ores et déjà quel était le lien entre l'accompagnement de personnes autistes et l'accompagnement avec eux sur des ateliers de médiation animale et équine.
Alors, du coup, oui, c'est ça. J'accompagne des enfants âgés de 5 à 12 ans. Le lien notamment avec le cheval, donc c'est des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique. Bon, ils sont tous différents. Il y a autant de TSA, si je puis dire, que d'enfants qui s'en sont atteints. Mais on va dire le trouble principal, c'est notamment l'entrée en relation avec les autres. C'est des enfants qui ont tendance à se couper du monde extérieur. Et donc de les faire venir à nous, c'est très compliqué. Et le cheval est vraiment un allié pour nous dans cette médiation. Parce que pour eux, c'est plus simple de rentrer en contact avec un être qui est non-jugeant. Nous, forcément, pourtant, on est non-jugeant, mais on ne le transmet pas de la même manière aux enfants. Le cheval est authentique dans ses relations, il est spontané. S'il a envie d'être avec nous, il nous le montre. S'il n'a pas envie, il nous le montre également. Donc ça, c'est vraiment un vrai atout. Il est vrai dans sa relation avec l'enfant et c'est ça qui la facilite, notamment. Mmh. Donc c'est pour ça, notamment, qu'on les met en relation avec les chevaux, parce qu'après, c'est des choses qui peuvent se reproduire dans les situations quotidiennes. L'entrée en relation avec le cheval permet de faciliter après la relation avec les humains également.
Donc on parle ici de permettre la spontanéité davantage dans la rencontre à l'autre, quelque chose qui ne s'impose pas
c'est ça.
Par la rencontre avec le cheval.
Oui, exactement. En fait, on ne les force pas. Ça se fait naturellement.
Ça dit beaucoup de nous aussi, du coup, et de notre volonté dans l'accompagnement, peut-être, d'amener à la rencontre et de l'imposer à certains moments, là où la rencontre peut se faire plus naturellement par le cheval.
C'est ça. Et via divers biais. Il y a le toucher, tout ce qui est sensoriel au niveau des naseaux, le souffle du cheval qui est chaud. Mm-hmm. Il y a tout cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi du fait que le cheval puisse aussi nous porter. Le portage par le cheval est aussi très important.
Et donc, ça agit notamment sur le plan sensoriel, mais aussi moteur.
Exactement. Parce que du coup, le cheval, quand on est à cheval, le mouvement du cheval au pas, il a le mouvement hélicoïdal qui correspond en fait à notre mouvement, à nous, de la marche humaine. Donc, c'est celui qui se rapproche le plus du mouvement de la marche humaine. Donc, c'est ce qui permet aussi aux enfants d'améliorer tout ce qui est moteur quand ils sont à cheval.
Comment on peut définir cet espace-là ? Est-ce qu'on parle d'atelier ? Est-ce que c'est une médiation équestre ? Un atelier de thérapie équine ? Un cours de poney ? C'est vrai qu'on va sûrement très probablement en parler durant cette émission, mais comment mettre un mot, un terme sur cet espace-là précisément ?
C'est vrai que c'est assez compliqué justement, parce que du coup, nous, comme tu l'as si bien dit, il est animé l'atelier par une monitrice d'équitation. À terme, j'aimerais, moi, pouvoir l'animer, parce que du coup, j'ai ce regard, entre guillemets, grâce à ma formation de thérapeute, parce qu'un moniteur d'équitation, il est là pour apprendre à monter à cheval aux enfants. Donc, en théorie, je dirais que c'est de la médiation par le cheval via de l'équitation adaptée. C'est un peu long, mais les enfants, ils ont quand même d'énormes bénéfices dans ces ateliers-là. Après, il faut avoir le regard pour pouvoir étayer les instants, justement, plutôt de la partie thérapie, si je puis dire. Mais c'est vrai que c'est compliqué de poser des mots dessus.
Donc, en tant qu'infirmière et aussi formée à l'équithérapie, en les accompagnant, tu permets quand même d'entourer cet espace-là par ton regard et d'ajuster à certains moments avec cette enseignante équestre.
C'est ça, exactement.
D'accord. Et quels effets, tu parlais de bénéfices, quels effets tu as pu déjà constater sur les problématiques très spécifiques de l'autisme chez ces enfants-là?
Bah, déjà, notamment l'entrée en relation. Moi, il y a des petites phrases d'enfants qui m'ont marquée, qui s'adressent directement au poney. Donc, c'est assez marquant. Alors, c'est forcément, j'allais dire, inadapté, mais pour nous, s'il s'adressait comme ça à nous. Mais par exemple, il peut dire au poney « Regarde-moi dans les yeux ». Pour lui demander la patte, donne-moi la patte, merci. C'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles avec nous quand on est au sein de l'hôpital de jour dans l'institution, alors que ça se fait très naturellement sans que nous, on initie ou on demande à l'enfant de le faire. Il le fait spontanément envers le poney. Donc il y a ça, et notamment aussi en termes d'équilibre à cheval. On a pu remarquer des changements de position. Des enfants qui se tenaient complètement avachis, tout mous, qui devait, enfin, nécessitait la présence d'un adulte pour le maintenir à côté. Et là, maintenant, actuellement, c'est des enfants qui nécessitent personne. Ils peuvent être autonomes sur le poney. Ils se tiennent beaucoup plus droit. Ils sont beaucoup moins, sont beaucoup plus toniques au niveau du dos. Donc voilà, c'est ce genre d'effet que on a pu remarquer.
Ouais, non, c'est vrai que c'est cette voilà quoi, cette tonicité un peu minimum, en fait, c'est obligatoire, quoi, juste pour pas tomber. Donc ça voilà, c'est sûrement un premier bénéfice, en tout cas avant même de parler d'apprentissage plus intellectuel, quoi. C'est quelque chose voilà qui que les cavaliers expérimentent autant sûrement que les enfants en thérapie.
Ouais. Et je me pose la question, je confesse avoir fait un peu d'équitation aussi, et vous l'êtes tout autant, davantage. Vous avez déjà eu, je pense, eu peur, vous avez déjà été confronté à des chutes à cheval. Et je me pose cette question, parce que moi ça m'avait marqué aussi à l'époque, je me pose la question pour les personnes qui ont du coup des angoisses, qui sont des angoisses pour le coup dans le cadre de l'autisme, des angoisses de chute, des angoisses d'effondrement, quelque chose où la question de la limite sensorielle et du corps ne se fait pas de façon facile, évidente. Comment ne pas prendre en compte ces angoisses-là? Est-ce qu'elles sont là?
Oui, ça arrive qu'elles soient là. Il y a eu des exemples, une petite fille carrément qui se jetait de son poney, qui expérimentait justement la chute. Après, il faut bien accompagner cela. Du coup, c'est pas l'empêcher de faire son expérience, mais c'est pour ça qu'il faut aussi justement être formé à ça, parce que bah forcément, de voir un enfant se jeter du poney, ça fait un peu tout drôle. Mmh. Donc, si on est formé, qu'on comprend, qu'on connaît sur la pathologie, que c'est des angoisses de chute, bah, il faut accompagner ça pour qu'elle puisse faire son expérience, mais en toute sécurité, justement. Donc oui, ça arrive. Après, honnêtement, la plupart des enfants qu'on a accompagnés, les angoisses de chute n'étaient pas présentes, en tout cas. Il y avait cette petite fille-là. Mais, et notamment sur les choses qu'on a pu vues en amélioration, j'étais en train de penser, parce que c'est des enfants qui présentent des stéréotypies parfois.
Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs ce que c'est que des stéréotypies?
Oui. Du coup, ça peut être des mouvements ou des sons qui sont faits par les enfants de manière, j'allais dire, involontaire, c'est plus fort qu'eux, ils n'ont pas le choix de les faire quand les angoisses sont trop fortes pour se rassurer, en fait, et se mettre dans leur bulle, si je l'exprime facilement, j'allais dire. Donc ça, nous, on a remarqué qu'il y avait certains enfants qui présentaient plus aucune stéréotypie quand ils étaient au contact du cheval, ce qui est assez impressionnant. Des fois, juste en fait, nous, c'est comme ça qu'on l'a analysé, mais le fait d'être juste en contact avec le cheval, ça leur permet un apaisement total. Et en fait, ils n'ont plus besoin de se rassurer avec ces stéréotypies.
Oui, mais c'est vrai que, en tout cas, comme pour connaître un peu les chevaux aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement innocent, quoi. Si tu fais quelque chose de brusque ou de bruyant, tu t'exposes en fait à une réaction de ton cheval pas désirée. Enfin voilà, ça sert à rien, quoi. Donc ça a une conséquence directe, et tu peux apprendre peut-être comme ça quelque chose, alors qu'avec des adultes, justement, c'est au contraire, c'est un signal, c'est comme tu dis, voilà, c'est de la détresse, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres, mais en tout cas ça crée pas la même chose qu'avec un cheval. Et puis je veux dire, même quand tu montes, quoi, je veux dire, si ta jambe, elle ne doit pas bouger, elle ne doit pas bouger. Parce que si tu dis quelque chose, si tu fais quelque chose avec, bah, justement, pour que ça ait du sens, il ne faut, faut pas qu'il y ait du bruit, tu vois, sur le signal le reste du temps. Quoi. Je ne sais pas si c'est valide comme analogie.
Non, c'est ça, exactement. Parce que nous, on a déjà eu des exemples, justement, des enfants avec des troubles du comportement, dit violent. C'est-à-dire qu'ils peuvent taper le cheval. Sauf que là, encore une fois, ils sont confrontés à un animal qui réagit. Et donc, nous, on trouve ça super intéressant. On ne peut pas non plus les mettre en danger, mais ça leur montre, en fait, que action-réaction, quoi. C'est l'avantage du cheval.
Et toi, si je peux poser une question, moi, mais tes patients, ils ont quand même un petit peu... Ceux qui participent à l'atelier, en tout cas, équitation avec l'enseignante, ils l'ont quand même un petit peu choisi. Il y en a pour qui c'est vraiment c'est écarté ou c'est dans un programme avec d'autres activités. Comment vous filtrez quoi, comment ils en arrivent à ces ateliers?
Du coup, c'est réfléchi en équipe. On réfléchit en équipe. Après, forcément, y a le consentement du patient, mais c'est toujours délicat dans les maladies, les pathologies psychiatriques. Mais on le recherche quand même. Après, c'est un atelier qui fait très envie, honnêtement. À l'hôpital de jour, tous les enfants, dès qu'ils nous voient partir au poney, c'est « Oh, moi, je vais aller au poney, moi, je vais aller au poney !» Donc, pour le coup, le consentement, l'envie, en tout cas, est là pour les patients. Mais nous, c'est réfléchir en équipe en fonction des objectifs que l'on a pour eux. Donc, voilà, ça, ce qui peut être au niveau du corps, souvent, c'est très corporel, mais ça peut être aussi au niveau de s'ouvrir aux autres.
Et très, de manière très pratique, il y a toujours un accompagnateur à côté du cheval et du jeune, où ils sont assez libres. Comment ça se passe, en fait, concrètement, sur place?
Alors, du coup, ils sont trois enfants. Donc, il y a un moniteur d'équitation. Et on est deux, plus une stagiaire psychologue qui viennent de l'hôpital de jour. Mais nous, alors ça dépend. Donc, comme je vous disais, donc, avec l'enfant qui nécessitait d'abord forcément un soutien de l'adulte, on peut être à côté en soutien. Là, maintenant, actuellement, la monitrice, elle gère toute seule la séance. Et nous, on est en retrait et plus en tant qu'observateur. Ce qui est hyper intéressant, du coup. On peut voir beaucoup plus de choses. Mais ça peut arriver en fonction de si l'enfant n'est pas apte ou s'il y a trop d'angoisse à ce moment-là, qu'on intervienne et que notre présence soit nécessaire.
Et qu'est-ce qui changerait si c'était toi à la place de la professeure d'équitation? Il y aurait quelque chose qui serait plus axé sur la sensorialité, sur la rencontre, ou c'est juste un changement de regard principalement?
Alors déjà, ce serait le cadre des séances, parce que normalement, les séances d'équithérapie, c'est quand même plus individuel que collective. Après, ça arrive justement pour les institutions, que ce soit collective, parce que justement, c'est plus avantageux au niveau financier. Mais en tant que... on va dire que le travail en individuel est plus important et il y aura plus une évolution possible. Et même dans le cadre des séances, c'est-à-dire une séance d'équithérapie, c'est pas forcément monté. Ça peut être aussi que du travail à pied. Mais ça, du coup, avec un moniteur d'équitation, c'est pas trop, c'est pas trop possible, quoi. Et même si c'est monté, ça sera jamais avec une selle. Alors, il y a des exceptions qui existent, mais généralement, on le fait avec un tapis de monte accru et un surfait, pour justement qu'il y ait ces sensations en plus corporelles beaucoup plus importantes qu'avec une selle qui, ça met encore une distance un peu plus importante. Mais ça dépend des enfants. S'il y a des enfants qui nécessitent d'abord cette selle, parce que c'est trop envahissant pour eux d'avoir le contact direct avec le cheval, on passera par la selle. Et pareil, au niveau de l'harnachement du cheval, c'est pas avec un filet, c'est avec un licol. Et en équithérapie, en tout cas, l'autonomie n'est pas travaillée, c'est-à-dire à cheval, dans le sens où on ne laisse pas le patient diriger tout seul. Nous, on est toujours... on tient le cheval. C'est ça aussi qui diffère.
Merci beaucoup pour ces premières réponses à cette première partie d'émission. Aujourd'hui, on parle davantage de la question du lien avec le cheval en France, ici, en tout cas dans le cadre de cette médiation, mais il se passe aussi des choses au Mexique. Avant d'en parler avec Louis plus précisément, on va rester dans le thème et comme un clin d'œil à l'un des projets artistiques sur lequel justement Louis, tu travailles actuellement autour de Moondog. On va écouter un morceau original de Moondog qui se nomme Suite Equestria. Peut-être qu'on aura l'occasion à la fin de l'émission d'écouter un autre extrait de ton travail, de ton projet musical sur Moondog. Donc là, tout de suite, pause musicale Moondog Suite Equestria, version originale. C'était Moondog Suite Equestria. Nous sommes toujours avec Charlène et Louis et Joseph à la réalisation pour cette deuxième moitié d'émission. Et donc, on va partir au Mexique. Louis, tu es parti au Mexique à plusieurs reprises, mais en 2023 pour des repérages, puis pour un tournage en 2024 du projet de film Moondog Equestria. Et en fait, un projet radio qui nous intéresse aujourd'hui principalement, qui s'appelle Escaramuza, une vie sensorielle. C'est un projet qui en découle un petit peu. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler déjà de ces deux projets et pourquoi on va parler principalement d'Escaramuza, une vie sensorielle aujourd'hui ?
Oui, absolument. C'est, donc Moondog Equestria, c'est un projet de film où il s'agissait de mettre en scène, donc sur la suite Equestria dont on a entendu un extrait, de mettre en scène pour la caméra des cavalières qui font une sorte de, voilà, qui exécutent une chorégraphie en fait avec les figures de cette discipline. Et donc la méthode pour préparer ça, c'était de tourner en fait un documentaire radio, d'enregistrer des interviews et de faire des prises de son de terrain pendant les entraînements, les cérémonies, enregistrer les musiciens du milieu charro, puisque ça fait partie d'une culture qui s'appelle la charrería, qui est une chose très importante culturellement et enfin voilà dans l'imaginaire mexicain. Et voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes du milieu charro et en particulier des escaramuceras, c'est comme ça qu'il faut dire, donc des cavalières qui pratiquent la escaramuza. Et mais en un mot, c'est une sorte de c'est un sport, hein, ils considèrent ça comme un sport. C'est moi je veux y voir beaucoup d'art, mais ils rappelaient toujours quand même cette dimension sportive. Voilà, moi, il y a des compétitions, etc. Donc c'est un sport collectif où 8 cavalières exécutent en fait dans un cercle des figures synchronisées, et donc ils sont à base de se croiser, s'éloigner en fait vers la périphérie du cercle et revenir et faire un exercice, mais donc voilà une petite danse quoi, au milieu. Mais c'est sur ce principe quoi, de centre périphérie, et c'est toujours synchronisé, c'est toujours en musique, et c'est assez sonore parce que les filles en fait crient des indications en fonction de l'endroit où elles sont, et donc qui correspondent à ce que doivent faire leurs collègues, quoi, pour être synchro. Et donc voilà, comme ça, c'est au galop, ça va un peu vite, il y a de l'adrénaline, c'est un peu spectaculaire, quoi. Mmh. Dans une charreada, dans un événement de ce genre, c'est le moment un peu c'est l'entracte un petit peu festif et un petit peu voilà, ça va vite et c'est chouette à voir, quoi.
Tu connaissais Charlène un petit peu?
Pas du tout.
on imagine le côté très sportif et artistique, hein, de cette performance-là. Et en même temps, tu parles de vie sensorielle aussi derrière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ça a l'air d'être important, cet aspect sensoriel-là.
Oui, donc il y avait ce que je mentionnais là, le fait de devoir être attentif en fait à ce que tu entends et que des fois tu ne vois pas, parce que si tu es en train de faire un tour sur un postérieur de ton cheval, tu vois pas forcément toutes tes copines, et pourtant il faut savoir que son de la, enfin tel en tout cas ordre que crie là, en général c'est là, il y a une capitaine, vous voyez, on a capitana, ça veut dire ok, on peut y aller, ou il y a cette dimension sonore. Et puis en général, ce qu'on disait un petit peu sur le voilà la en fait sentir le cheval, tu vois, toi tu disais au pas, le pas du cheval transmet quelque chose au cavalier, d'autant plus si c'est un gamin qui a cru, quoi. Mais de toute façon, tu dois sentir ça en fait pour bien faire ton travail. Tu dois sentir en fait la démarche de ton cheval. Tu vois, si tu galopes pas faux, c'est-à-dire si les membres sont pas, en tout cas, si l'allure du galop est pas synchronisée avec le côté, on va dire, auquel tu tournes. Enfin voilà, moi je crois que ça aiguise beaucoup la perception en fait. Le fait de monter à cheval globalement, et dans l'escaramouça, c'est ce qui est chouette, c'est en particulier ce côté collectif, donc avec voilà le fait d'écouter, de voir les autres, et il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'elles montent en amazone, donc c'est-à-dire qu'elles ont les deux jambes du même côté, et voilà, ça fait évidemment la beauté au niveau de la posture, au niveau chorégraphique, disons, ça fait beaucoup. En même temps, ça rajoute une fragilité, parce que c'est pas, enfin voilà quoi, elles aussi elles peuvent tomber, comme on disait en parlant des enfants, pour ce que ça sollicite dans le dos. Enfin il faut qu'elles soient super fit, et voilà, et c'est un effort considérable, d'autant que voilà, c'est pas parce qu'elles ont les deux jambes du même côté qu'elles tournent pas aux deux côtés, hein, donc voilà. Mais enfin voilà quoi, sur le corps et les sens, il y avait plusieurs choses, voilà, que j'essayais de te présenter là, qui me plaisaient beaucoup dans la escaramouça, outre le spectacle que c'est, qui est plus immédiatement très séduisant.
Oui, et puis tu nous dis à quel point c'est à la fois un sport et un art équestre qui est aussi traditionnel. Mmh. Moi je me posais la question de la place des femmes dans ce sport. Est-il traditionnel lui aussi? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça a toujours été des femmes qui ont monté? Est-ce que c'est exclu aux hommes?
Ouais, ça aussi, tu vois, tout ce voyage de repérage, c'était vraiment utile pour comprendre tout ça avant d'essayer, moi, de faire quelque chose avec. Parce que la escaramouça, donc en français on dit escarmouche, donc c'est l'idée d'une, c'est une espèce d'attaque éclair, quoi, d'attaque surprise de cavalier, donc c'est un truc guerrier, quoi. Et en fait, donc ça vient, en tout cas dans l'idée, c'est l'idée de mimer, en tout cas d'évoquer les adelitas, donc les femmes révolutionnaires qui allait en fait avec les hommes de la révolution, donc au Mexique c'est 1910, donc c'est une espèce d'époque comme ça un petit peu mythique, avec et donc ça va aussi avec des grands chapeaux, des sombreros, quoi, comme assez semblable à ceux des hommes. Typiquement, elles ont la robe qu'on appelle de adelita, donc c'est une grande robe, ça peut être une jupe avec un top, quoi, assorti, mais en tout cas c'est très coloré, très orné, et c'est le même pour toutes les filles, en tout cas dans une même équipe, donc c'est-à-dire pour huit cavalières. Et en réalité, c'est le, ça fait partie au niveau culturel du monde de la charreria, c'est-à-dire qui est lié à l'élevage, au travail avec le bétail. C'est un peu les cow-boys mexicains, même si peut-être ils ne seraient pas tous très à l'aise avec cette analogie américaine, parce que pour eux, c'est un truc très, très mexicain. Mais en tout cas, ça vient de ça, quoi. C'est, en français, on dit équitation western, tu vois. Et la escaramuza fait partie de cette culture, mais en réalité, c'est une sorte d'invention plus tardive qui, dans les années 50-60, ça a commencé par des sortes de petites joutes qui concernaient d'ailleurs des enfants, des petites filles, des petits garçons, plus que spécialement des femmes, alors que les femmes n'étaient pas du tout incluses dans la charreria. Et plus tard, dans les années 80, c'est devenu une discipline, donc la discipline féminine de ce sport, qu'est la charreria. Culturellement, c'est complètement intégré, mais au niveau des mouvements eux-mêmes, des épreuves, etc., c'est assez différent. Même d'ailleurs, maintenant, on dit caballos escaramuceros, donc il y a des chevaux dressés à ça, c'est une éducation spéciale, et c'est pas la même exactement que ceux que les chevaux des charros, des garçons, quoi, qui attrapent un veau ou un taurillon au lasso, qui doivent monter à cru un cheval bronco, quoi, un cheval qui est pas dressé. Donc c'est très différent, quoi, ce que j'ai décrit là sur ces chorégraphies à 8, etc., très subtiles, avec les épreuves masculines.
Quelle réponse experte. On sent que tu as été imprégnée de tes rencontres et repérages. En tout cas, au fur et à mesure de ces rencontres dans le monde de la escaramuza, la question du soin a été abordée avec certaines de ces cavalières. Quel lien, en fait, on peut faire avec la place de ces femmes, mais aussi la question du soin. Comment elle s'est introduite dans tes rencontres ?
Et elle s'est introduite à travers Aline Montiel, qui est une jeune équithérapeute qui a été, je ne sais pas à quel point ça fait encore partie de sa pratique, mais en tout cas, elle a été escaramucera, quoi, très, très, toute sa vie. Sa famille fait ça, elle fait partie d'une association très importante. Mais disons que il n'y a pas spécialement une dimension de soin dans la pratique de la escaramuza elle-même. C'est plutôt, tu vois, les gens qui aiment le cheval, en général, ils sont curieux, donc ils vont voir, tu vois, j'étais beaucoup dans le nord du Mexique, donc là, ils regardent beaucoup le reining, ce qu'ils appellent la doma natural, mais qui est en gros des choses qui viennent plutôt des États-Unis. Aline, je sais que par ailleurs, elle aime bien le dressage. Son instructrice, elle est allemande, voilà. Donc c'est des disciplines qui sont plus typiquement européennes. Les gens de cheval, ils vont dans des directions différentes. Et elle, en étant, elle est pédagogue, quoi. Elle est formée. Il n'y a pas de cavalière professionnelle de toute façon dans ce monde-là. C'est toujours un loisir, même si ça prend une grande place dans la vie. Donc elle pratique le soin de cette façon, mais c'est séparé, on va dire, du fait d'être escaramuza.
Ok, en tout cas, tu t'es entretenue avec Aline au détour de ces rencontres. Et ça tombe bien parce qu'on a un petit extrait sonore où on peut entendre Aline parler de sa pratique, de son parcours. Alors, ça parle bien espagnol ici sur ce plateau, je crois. J'ai cru comprendre. Charlène, toi aussi.
Oui.
Ça va. Louis, on a compris que voilà, tu te débrouillais très bien aussi. On va avoir besoin quand même d'une petite traduction après l'écoute de ce qui a été dit par Aline. Et donc, c'est toi, Louis, qui fais l'enregistrement.
Voy a escaparme otra vez y tú tienes que manejar a tu caballo hacia donde esté yo. ¿Lista?
Soy Aline Montiel Fernández, fui reina de la Asociación Nacional de Charros del bienio 2016 a 2018. Y ahorita yo formo parte ahí de la FEMTE, que es la Federación Mexicana de Terapias Ecuestres.
Trae a tu caballo para acá, tráelo para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Para acá! ¡Alto! ¡Vamos a chocar! ¡Para acá, ven! Eso, Leo, muy bien. Trae a tu caballo.
Tengo de todo. Tengo niños con parálisis cerebral, tengo niños con autismo, tengo niños con síndrome de Down, tengo niños con desintegración sensorial. que al final parece que es un niño común y corriente, pero son los que más trabajo les cuesta como percibir el mundo de manera organizada, o niños que hacen berrinches de la nada, es un niño con desintegración sensorial, o este niño típico que todo el tiempo se va cayendo y tiene el cuerpo lleno de moretones, eso es desintegración sensorial. Niños con problemas de habla o de lenguaje, que al final el habla es algo motriz. Entonces tengo niños con problemas de habla, que dentro de mi especialidad pues trabajo abajo del caballo primero toda la boca y una vez trabajada me subo al caballo, ¿no? Niños con lenguaje que como que con problemas de lenguaje, como que hablan desorganizado o no tienen esta concordancia género número de la caballo o el silla, lo que sea, también se puede trabajar arriba del caballo. Incluso tengo niños que tienen problemas de aprendizaje, que los he enseñado a leer arriba del caballo. ¿Cómo? ¿Se hace cuenta? Al lado de la pista pego letras y entonces, ¿cómo suena? Ah, y no vas a dejar de decir ah, hasta que llegues a la... amigo.
Sígueme.
Ah, amigo. Cuando formamos nuestro centro de quinoterapia, veo esta necesidad que tienen que ser personas doblemente especializadas, que tengan una carrera afín, psicología, fisioterapia, pedagogía, educación especial, pero que además sepan montar, que además les guste el caballo, ¿no? Entonces empiezo a platicar con algunas amigas y bueno, me interesa el proyecto, quiero unirme, porque empecé yo dando terapia con mi caballo, ¿no? Cuando yo veía cosas en la carrera sobre autismo y tal, decía es que el caballo es una maravilla porque los niños aprenden en base de contexto, aprenden por eventos comunicativos, por la granja, aprenden el sonido, el vocabulario, el verbo, aprenden así, ¿no? Y el caballo es un contexto que todo el tiempo te da información, que puedes hablar del baño del caballo, del alimento del caballo, del ciclo de vida del caballo, que al final es algo que te da muchísimo, además de bueno, toda la parte física que te da el caballo, que te la da a ti, que mejoras en tu equilibrio, que disocias movimientos y tal. Entonces, en el equipo que empezamos, veo que pues una de mis amigas es fisioterapeuta. Ah, bueno, pues certifícate. Ah, otra de mis amigas es psicóloga. Bueno, certifícate como quinoterapeuta. Entonces, empezamos como a tener esta doble especialidad que los papás empiezan a darse cuenta y que los beneficios se ven exponenciados cuando tienes un profesional que tenga estas dos ramas, ¿no?
Lista. Mira, sí, agarra tu rienda y nos vamos a salir, ¿ok? Lleva tu caballo a la puerta. Lleva tu caballo a la puerta, mano derecha, espalda derechita, atrás, ¿vale? Aquí. Llegando a la puerta va a ser un alto, ¿ok? Ven, sígueme para acá. Vas muy bien con este triángulo. Ahí, alto, jala hacia el ombligo. Eso. Listo, van. Chócala.
Alors, j'ai rien compris. Peux-tu nous expliquer?
Oui, donc là, en résumant, Aline, donc elle se présente quand même comme Reina des, enfin ex-Reina de l'Association nationale des Charros, donc voilà, donc c'est lié au monde des Charros et à l'Escaramuza. Et donc Sensoria, c'est le nom de sa structure d'équithérapie, voilà, reçoit donc des enfants avec des troubles très très divers, elle dit autisme, problèmes de motricité, problème de langage, elle développe pas mal sur ça, sur le langage, avec le fait, l'idée notamment d'apprendre à, en gros, apprendre à lire dans l'espace. Que elle dit, mais ceux qui n'arrivent pas à lire ou à l'école, bah en fait, pour faire amigo, ben il y a trois lettres, il y a des lettres sur le tour du manège, un truc comme ça, et donc il faut relier les lettres. Et donc voilà, c'est, tu vois, la lecture reliée à un mouvement, reliée à une séquence, quoi, aussi dans le temps, et c'est pas juste de l'encre sur du papier, quoi. Voilà, c'est ça que je retiens là dans la première partie. Et dans la deuxième, elle parle de la nécessité d'être formée, en fait, et donc elle venant en tant que cavalière, en tout cas, mais avec cet intérêt, elle a dû se former dans le soin, dans la thérapie. Et inversement, ses amis thérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, bah ont dû aussi apprendre à travailler avec les chevaux, parce que c'est une question aussi de sécurité. Enfin, ça, c'est, donc il faut être doublement compétent. Voilà, c'est, il y a quelque chose qui t'a marqué, Charlène, là, parce que je résume un peu vite là, en oubliant un truc ou deux, mais il y a peut-être un regard la professionnelle qui peut nous éclairer.
Tout à fait. Oui, je me demandais effectivement aussi ce qui t'a marqué et ce qui fait écho à ce que tu nous disais aussi tout à l'heure.
Bah, ce qu'elle disait notamment, enfin, ça fait lien justement ce que tu disais par rapport au langage. En fait, c'est tout l'aspect motivationnel du cheval, où elle disait aussi que, je crois qu'elle parlait de la nourriture des chevaux, du cycle de la vie des chevaux, enfin, je crois qu'elle parlait de ça, et que du coup, bah, pour les enfants, c'est entre guillemets plus simple pour eux de s'intéresser à ça, et ça s'inscrit plus, bah, j'allais dire facilement pour eux, parce que bah, ils ont tout un intérêt à s'y intéresser, et c'est vrai que des fois, bah, cet aspect-là motivationnel du cheval est très important et permet de débloquer certaines choses.
Oui, tu vois, je savais que j'oubliais un truc, merci beaucoup.
On va passer à un deuxième enregistrement pour continuer dans la foulée, au petit pas, au galop, pas encore le galop, mais on va passer au petit pas, sur la séance d'équithérapie du petit Léo que tu as rencontré à Mexico. On va entendre sa thérapeute qu'on vient d'entendre à l'instant, Aline, et sa collègue Nancy, et toi, Louis, qui répond à Léo. Donc là, c'est plutôt une immersion sonore qui est très touchante, je trouve. Donc Léo sur le poney.
Aline, me ayudas? Claro. Oye, dice que qué estás haciendo ahí?
Ah, ¿quieres saber? Estoy grabando el sonido que hacen ustedes. Luego quieres oír. Ahora escucho la voz de Aline, escucho la boca de Pegaso y escucho tu voz también.
Entonces hay que hablar súper bien, ¿verdad?
Ay, 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 ay.
Ay, no, qué raro, qué raro. Ok, ¿listo? Agarra tu rienda, agarra tu rienda. Uñas al cielo y manita apretada. Eso. Ok, Leo, trae a tu caballo para acá, por favor.
¡No!
Oye, acuérdate que a veces es chistoso, pero ya si vamos a pegarle a alguien ya no es chistoso, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces tenemos que tener cuidado porque tal vez a alguien no le gusta que estemos tan cerca de ellos.
Okay.
Entonces, perdón, Luis.
Pero Luis.
Voy a tener más cuidado.
No pasa nada.
Ok, ¿listo? Vas a traer a tu caballo para acá. Trae a tu caballo para acá.
Ok.
Eso, eso.
¿Qué? Por acá no.
Eso, Leo, muy bien, buen trabajo.
Por acá no.
Pero concéntrate, porque si empezamos a gritar, nuestra cabeza se desconcentra. Tú puedes. Tú puedes, lo estás haciendo muy bien.
Es que el caballo no...
Eso, trae tu caballo, eso. ¿Puedes guiarlo a donde estoy yo, por favor? Guíalo para acá. Eso, Leo, muy bien. Y por favor, pon atención cuando tengas que parar a tu caballo. No quiero que me pise, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Perfecto!
¡Hola, hola, 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 hola!
No podemos gritar porque lastimamos sus oídos.
¿Qué? ¡Hola, hola, hola!
Exacto, gracias
hola,
por la pregunta.
Le propongo escuchar.
¿Qué es eso?
Ese son aparatos de...
Sí,
oye,
mira.
Luis te va a preguntar algo, escucha.
¿Quieres escuchar cómo se escucha el sonido?
¿Pero qué crees? No podemos jalar
no,
nada.
No se,
okay.
No se grita, todo con calma,
sí.
Pero con todo gusto.
Sí, sí.
Pero no toques sí. Nada, Leo.
A ver. Despacito, ¿eh?
Las manitas con las
manos abajo, manos abajo.
Las dos manitas en la zanahoria, mamá. Las dos manitas agarrando la zanahoria. Leo, Leo.
Sí, adelante.
Las dos manitas agarrando la zanahoria y no la puedes soltar.
Claro, on entendait à la fin le... En fait, je propose à Léo de mettre le casque et d'entendre ce qui se passe. Donc, il y a des micros un peu partout, quoi. Et donc, les thérapeutes sont un petit peu paniqués de « Non, mais il va jeter quelque chose, il va casser le matos, et tout là. » Je sais pas à quel point ça fait partie de la thérapie, parce que c'était vraiment, vraiment improvisé. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il n'y a pas de geste innocent, etc. C'est pour ça que j'avais gardé cette séquence qui n'était pas voilà c'était j'étais invité quoi c'était pas prévu et après par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que dans les séances de thérapie que tu connais que normalement les personnes sont pas forcément montées en tout cas elles sont pas en autonomie là il y a quand même l'idée on entend Aline souvent dire allez vas-y Léo amène ton cheval jusqu'à moi etc va jusqu'au coin et guide-le et attention s'il te plaît ne marche pas dessus parce que c'est pas un poney hein, c'est un cheval c'est Pégaso tu vois c'est un Pégase et effectivement le petit il a je sais pas quel âge il a 5 ans tu vois ou 6 mais donc il y a la thérapeute le laisse guider le cheval qui effectivement est sympa et il est au pas et c'est tranquille mais en tout cas il y a quand même l'idée de faire plusieurs mètres avec lui qui est qui est monté et qui le dirige pour remplir un ordre, quoi, un contrat de va jusqu'à Aline, fais attention à Louis, fais attention au thérapeute, etc., dans l'espace, quoi.
Oui, il y a cette question de précaution, d'accompagnement, d'écoute, et pas uniquement d'objectif d'autonomisation du jeune. Puis en plus, moi, je pensais que c'était sur un poney, donc vraiment. On va écouter un dernier extrait sonore qui va nous permettre de finir cette heure d'émission sur une question, en fait, hein, une question à se poser sur devenir thérapeute, devenir équithérapeute. Donc là, on va écouter Martha. Qui est une jeune femme pratiquant la escaramouça et l'équithérapie, c'est bien ça. Et on va mettre un court extrait, puis tu vas pouvoir également nous contextualiser, Louis, ce qui a été dit. Alors, dernier extrait avec Martha.
El proyecto de Rancho Santa Elena empezó hace 5 años. Yo tengo montando más de 14 años, ya formaba parte de otros equipos. Pues obviamente con las ganas de seguir haciendo charrería, estaba un poquito lejos de donde yo la practicaba y en sí, en la comunidad, pues nunca antes había habido un grupo de escaramuzas, ¿no? Empezamos, hemos tenido mucho interés por parte de la comunidad. Y pues ahí vamos, poco a poco, gracias a Dios, de tres años para acá, está consolidado el equipo como tal. Logramos este año conseguir la oportunidad de pasar al campeonato nacional. Uh-huh. Igual cuando llegamos a la comunidad nos dimos cuenta que hacía falta o que se podía aportarle al pueblo las equinoterapias. Nos capacitamos yo y mi compañera Nancy, que somos las fundadoras,
y con el apoyo de las demás muchachas
brindamos el servicio de equinoterapias a quien lo requiere. Y la comunidad, a pesar de que es muy pequeña, nos percatamos que había mucha necesidad de ayuda, ¿no?, para ellos.
C'est dans un contexte rural, quoi, qu'elle a installé son équipe.
Quisimos invertir tanto dinero, tiempo y esfuerzo en capacitar.
C'est en Basse Californie, c'est-à-dire c'est le grand isthme qui est tout à l'ouest du Mexique.
La gente llega a buscarnos y le decimos,
les caballeros de la escaramuza, en tout cas elle et Nancy, c'est sa collègue, proposent des thérapies.
Nosotros tenemos que buscar tiempo para que puedan apoyarnos también las demás compañeras, porque no podemos hacerlo.
Quelquefois les autres filles de l'équipe aident aussi avec les thérapies, mais en tout cas c'est pas une chose professionnelle, c'est gratuit.
Los municipios son retirados, entonces aún así viene gente de otros municipios haciendo viajes de una hora y media o dos.
Et voilà, c'est dans l'idée d'aider les gens du coin, quoi. Elle finit par dire que les gens viennent d'assez loin. Des fois, ils font une heure et demie ou deux heures de route pour venir, suivre les thérapies qu'elle dispense. Elle dit qu'elle s'est formée, mais on n'est pas allé très loin dans cette discussion. Et voilà, là, on entend la fin de l'entraînement là, auquel j'assistais.
Et ça pose la question de l'accompagnement, en fait, en tant que cavalière escaramouça. On voit que là, c'est ces cavalières qui deviennent plus ou moins thérapeutes. Est-ce qu'on peut, moi je me pose la question, et autour de cette table, je pense qu'on se la pose aussi tous les trois, est-ce qu'on peut facilement passer de cavalier à équithérapeute? Enfin, quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients à avoir cette trajectoire-là, à l'image de Martha?
Je pense que c'est une question pour Charlène.
Du coup, je reviendrai sur les propos que c'était Aline, je crois, qui parlait de ça, justement, de la double compétence, qui pour moi est complètement nécessaire, dans le sens qu'il faut avoir des connaissances à cheval, enfin des chevaux aussi, parce que c'est nos partenaires de travail, que ce soit pour eux, leur bien-être, et notamment aussi pour la sécurité, de reconnaître les comportements des chevaux, d'anticiper. Enfin, c'est vraiment ce travail-là d'observation qui est hyper important, et notamment la compétence du soin, j'allais dire, pour connaître les pathologies, et pareil, anticiper et savoir comment prendre en soin ces personnes-là qui viennent pour de la médiation animale.
En plus, il y a quand même la notion... je ne sais pas en médiation ou en thérapie, mais en tout cas en thérapie, c'est suivi, quoi. C'est toutes les semaines pendant des périodes assez longues. C'est pas une séance qui fait quelque chose, qui fait un miracle, quoi. Ou c'est une idée que j'ai.
C'est ça. Du coup, l'équithérapie, comme dans la thérapie, c'est forcément des longues prises en charge. Donc ça peut durer un an, deux ans, mais et en effet c'est toutes les semaines où bah il y a des formats où c'est toutes les deux semaines parce que forcément ça a un coût encore une fois, mais il faut quand même que ce soit assez, enfin ça peut pas être une fois par mois quoi, ça c'est pas possible, sinon ça s'inscrit pas dans bah dans la thérapie quoi.
Oui, donc l'équithérapie, il y a ce processus dans le temps qui se fait graduellement avec des objectifs, là où quand même la médiation équine est encore assez différente. Enfin, j'ai l'impression que les termes ont quand même leur importance et qu'on peut davantage penser à du groupe en médiation équine, quelque chose qui se fait à plusieurs, où il y a peut-être des objectifs également, c'est pas non sans objectif, mais en tout cas, l'équithérapie se pense aussi sur un processus graduel. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est ça, c'est ça. La médiation équine, j'allais dire, ça peut être un atelier ponctuel, en groupe ou même en individuel. Après, c'est vrai que c'est compliqué en France parce que bah, du coup, il n'y a pas de législation, ce n'est pas légiféré. Du coup, c'est vrai qu'il y a un syndicat le syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine, qui regroupe bah, tout ce qui est hypothérapeute, équithérapeute, professionnel de la médiation équine, bah, justement pour se battre un petit peu pour utiliser les bons mots et faire reconnaître les différentes professions. Parce que du coup, il y a malheureusement des gens qui se proclament équithérapeute ou hypothérapeute et ils n'ont aucune formation, malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est, on va dire, le débat qui est le plus compliqué parce que justement avec toutes les médiations qui sont de plus en plus médiatisées, parce que bah, apparemment c'est magique, mais tout n'est pas magique. Il y a des choses qui sont... Il faut quand même un cadre et c'est hyper important pour assurer la sécurité, quoi.
Et moi j'ai une question, c'est pas... Vous visez à terme à ce que ce soit quelque chose qui puisse être prescrit par un généraliste ou ou en psychiatrie quoi et bah voilà remboursé par la Sécu etc ou c'est parce que actuellement c'est pas en tout cas là le cadre de l'hôpital de jour c'est différent mais des patients qui sont scolarisés habituellement etc ça se passe jamais comme ça on est d'accord
c'est ça oui c'est pas du tout prescrit par un médecin après du coup nous il nous faut toujours un certificat de non contre-indication à la pratique du cheval, ça c'est important. Mais sinon, non, il n'y a pas du tout de prescription d'un médecin. Ce serait bien qu'à terme, ça le soit. Par contre, il y a quand même la MDPH. Alors, je ne saurais plus dire maison...
Maison départementale, personne en situation de handicap.
C'est ça, qui peut prendre certaines séances ou même carrément prendre en charge complètement maintenant des prises en charge en équithérapie. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Ça bouge quand même à ce niveau-là, mais de là que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, on en est encore loin, malheureusement.
Ou les mutuelles, peut-être, parce que maintenant, c'est vrai qu'elles se subventionnent.
Certaines.
Elles prennent en place des choses, elles prennent en charge des choses pas que la Sécu ne considère pas. Quoi.
Mais... Oui, bah, certaines, mais du coup, pareil, c'est soit un certain nombre de séances. Après, il faut bien se renseigner, mais maintenant, de plus en plus, en tout cas, il y en a certaines qui prennent en charge.
En tout cas, on peut penser les raccourcis, les risques, les enjeux de passer de cavalier à équithérapeute en faisant uniquement, en restant dans son domaine d'atelier équestre, sans penser à tout ce dont on a parlé aujourd'hui, des spécificités liées au déplacement, au langage, à la sensorialité. On peut aussi penser d'autres enjeux quand on est thérapeute et qu'on veut se spécifier dans l'équithérapie aussi. On a parlé justement de cette mode de la médiation thérapeutique, si on peut parler de mode, en tout cas de tendance, quelque chose qui se globalise aujourd'hui, qui est peut-être des formes de marketisation aussi là-dedans et d'économie hein, dans le groupe. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que cette pratique, elle peut être pensée, elle peut être dangereuse pour les personnes en situation de handicap. Comment vraiment, bah justement, tu parlais de cadre, mais est-ce qu'il y a autre chose à penser au-delà du cadre pour que voilà, on puisse continuer à avancer dans cette question de l'accompagnement par la médiation équine. Ça, c'est là l'ultime question. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à penser ?
Bah, c'est une bonne question.
Pas forcément. En tout cas, toi, dans ta future pratique, tu décides d'être équithérapeute. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi à l'avenir dans ce travail ?
Bah, en effet, qu'il y ait plus de cadre, mais ça vient encore d'au-dessus, malheureusement. Ouais. Parce que pareil, même en termes de formation, il existe énormément de formations. Donc, on peut se dire qu'on est formé, mais des fois, pas par des bonne formation. Donc c'est vrai qu'il y a 3 écoles qui sont reconnues pour l'équithérapie. Mais justement, bah, c'est ce syndicat qui se bat aussi pour trouver les formations qui sont pas moins reconnues, parce qu'encore une fois, je dis que mes écoles sont reconnues, mais elles ne sont pas vraiment reconnues. Mais... Donc c'est retrouver le reconnu parmi le non reconnu.
Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'association ?
Des écoles ?
Oui, des écoles, oui.
Donc, moi, du coup, j'ai été formée à la Société française d'équithérapie, donc la SFE, il y a la FENTAC, et il y a l'IFEC. Ce sont les 3 écoles qui sont reconnues.
Merci, Charlène. Pour ces dernières minutes d'émission, je souhaiterais que l'on diffuse un extrait du premier mouvement de la suite Equestria, enregistré avec l'ensemble
Cousion.
Merci. Et les cavaliers issus de différentes équipes locales, est-ce que tu peux nous expliquer, et puis on va se dire au revoir avec cet extrait d'une minute.
Voilà, donc c'est la suite Equestria, c'est la base donc, de mon projet Moondog Equestria. Donc c'est cette pièce de Moondog que des percussionnistes donc de Monterrey dans le nord du pays ont interprété en fait avec en gros des cavaliers qui faisaient une chorégraphie escarmucera autour d'eux et donc tout ça avec des micros et surtout des caméras, mais voilà, là on entend le son, donc c'est au milieu, il faut imaginer un ranch quoi, un peu entre les montagnes avec du vent, et puis voilà, c'est pas une salle de concert ou c'est pas un studio de prise de son quoi.
Je rappelle que ce très beau projet, Louis, est en cours de montage et j'ai hâte qu'on puisse tous l'écouter. Là, on a le droit à un petit extrait. Au revoir Charlène, au revoir Louis.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Je vous souhaite déjà une très bonne soirée à vous deux, une bonne soirée à vous tous, et à bientôt pour un prochain épisode Gestalt.